Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro et on se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Bonsoir Ravéli Lemel, Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
On peut d'ailleurs commencer à se dire bonsoir avec les coudées un peu plus franches, puisque le calendrier avance, et donc Shabbat sort avec des horaires qui ressemblent plus à des soirées maintenant. Et d'ailleurs, puisqu'on avance dans notre calendrier, eh bien on aborde une nouvelle paracha. Et c'est une paracha... Quelle paracha ? Puisque c'est celle des 10 commandements. Alors, sur ces 10 commandements, Ravéli Lemel, vous avez envie de nous poser une question. C'est peut-être... Allez, l'événement le plus important du peuple juif, il y a la mer Rouge, il y a évidemment Adam et Ève, Akadat Yitzhak, mais quand même, la révélation, 10 commandements. Ça se passe sur une montagne que personne ne connaît, qui d'ailleurs est considérée comme quasiment pas une montagne. On ne sait pas où c'est. On peut aller se promener dans le Sinaï sans savoir qu'on est en train de marcher sur l'endroit de la plus grande révélation de l'humanité. Et la Torah a fait ça, évidemment, exprès. Alors pourquoi avoir fait ce choix d'un lieu qui semble banal et surtout sans aucune indication? Par exemple, nous, on peut aller prier devant le Kotel. On ne peut pas aller au Sinaï, on ne sait pas où c'est. Expliquez-nous, Ravéli Lemel.
Exact, c'est vrai qu'a priori, c'est très curieux parce que le mont Sinaï, mais parce qu'on est dans le désert du Sinaï, rappelons-nous. Donc, Har Sinaï, alors le Talmud nous dit qu'il a plusieurs noms, qui symbolisent plusieurs notions qui sont liées à, je dirais plus, au message que le Sinaï véhicule. Mais regardez, quand on va en Israël, eh bien, on a envie d'aller au Kotel HaMaravi, on va au mur occidental, on est là, on prie. Alors que malheureusement, ce ne sont que des ruines, qu'on espère très très rapidement, bien sûr, se reconstruire. Mais voilà, le Sinaï, quand même, on aurait pu imaginer, et là, rien du tout. Et pour mieux comprendre cela, eh bien, je vais vous citer un texte du Talmud, dans le traité de Tanit, qui nous rapporte une histoire d'un échange entre différents maîtres. Alors, on a d'un côté un maître qui s'appelle Rav Nachman bar Rav Frisda, et ce Rav Nachman bar Rav Frisda va s'adresser à quelqu'un qui a quasiment le nom, d'ailleurs, il s'appelle Rav Nachman bar Yitzhak. Il lui dit quoi ? Leikumar leite lo gavan. Il dit « Lève-toi de là où tu es et viens nous rejoindre ». Alors, il s'agissait en effet d'un repas, en tout cas d'un moment dans lequel bon nombre de personnes étaient présentes. Et puis, il y avait une table où étaient assis les différents rabbinis, les différents maîtres. Et puis après, il y avait les autres tables où étaient assis toutes les autres personnes qui étaient là. Et alors, Rav Nachman bar Frisda voit que son collègue est assis à une autre table. Alors, il lui dit « Mais viens, lève-toi, viens nous rejoindre ». Et derrière ça, il lui dit « Écoute, tu es un homme important, tu es assis là parmi des personnes charmantes, très sympathiques et tout, mais ça serait peut-être que tu viennes nous rejoindre dans cette table où nous sommes réunis, les différents maîtres et les différents enseignants ». Et de manière très curieuse, eh bien, ce maître lui dit « Non, pas du tout, je suis très bien là où je suis. Pourquoi ?» Et il cite un enseignement qui est le suivant. « Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit « L'homme comme Moshe la dame Rabdo ». Ce n'est pas le lieu qui valorise l'individu. Et là, Adam Mechabed et Mekomo. Mais c'est l'individu qui donne de la valeur au lieu sur lequel il se trouve. Et d'où nous l'apprenons, Behar Sinai, à propos du mont Sinai. Chez Kolzman, Shashrin, Lashruyalav, tant que la présence divine est sur le Sinai, alors la Torah nous dit, personne ne peut y accéder d'aucune manière. Mais dès le moment où la révélation se termine, eh bien, le texte nous dit que maintenant, tout le monde peut monter sur le Sinai. Hommes, femmes, enfants, animaux, ça y est, c'est terminé. Et on a quand même ici quelque chose d'extrêmement intéressant. Il est en train de nous dire au fond, le Sinaï n'a de valeur que parce qu'il y a une révélation, que parce que, évidemment, on se comprend quand je dis ces mots, Dieu est présent dessus. C'est-à-dire qu'il y a une présence particulière. C'est cette présence particulière qui donne au Sinaï son caractère incroyablement élevé, incroyablement sain, qui fait que personne ne peut y accéder tellement c'est fort. Mais dès le moment où, entre guillemets, bien sûr, Dieu n'est plus sur le Sinaï, c'est-à-dire il n'y est plus de la même manière, ce n'est plus la révélation, eh bien le Sinaï redevient un petit peu comme toutes les montagnes, enfin il redevient comme toutes les montagnes, et à la limite, même connaître le lieu serait presque contre-productif, parce que on serait là et on vénérerait peut-être à un moment une montagne et d'autres choses. Quand on va au côté de la Maravie, alors qu'on va au mur occidental du temple, rappelons-nous que nos maîtres nous apprennent que depuis le jour où le temple était détruit, la présence divine n'a jamais quitté ce lieu. Donc il y a une dimension particulière qui est toujours présente, c'est celle de cette présence divine, de cette Shrina qui donne à ce lieu une dimension élevée. Dans un endroit dans lequel on a prié, alors il y a des lois particulières qui disent que quand un lieu a été un Beth Aknesset, un lieu de prière, alors il a une sainteté. Mais en dehors de cela, eh bien, le Sinaï n'a eu de valeur que parce que Dieu s'y révélait le jour, le moment où Dieu ne se révèle plus sur le Sinaï, eh bien, le Sinaï redevient comme toutes les montagnes. Et je crois que cet enseignement, au fond, il est fondamental, surtout de par ce qui se passe dans cette histoire entre ces deux Rav Nachman. D'un Rav Nachman qui dit à l'autre, mais peut-être que là où tu te trouves, ça ne sied pas à ce que tu es. Et lui dit, non, c'est l'individu qui va donner au lieu dans lequel il se trouve de la valeur. Vous savez qu'on est dans un monde dans lequel, je crois que c'est Daninos qui disait dans un de ses ouvrages qu'il existe la noblesse de quartier et puis les quartiers de noblesse, c'est-à-dire certaines personnes qui existent à travers le lieu dans lequel elles se trouvent, et au fond elles ont besoin à ce moment-là d'être souvent dans des lieux qui symboliquement représentent ce que l'on appelle, vous savez, les VIP, n'est-ce pas, le carré VIP. Je rappelle d'ailleurs un de nos enfants un jour avait entendu ce mot-là, il était tout petit, il disait « Quoi, il y a des vieilles pies là-bas » Et c'est vrai que c'était peut-être pas très sympathique, mais c'est quelque chose sur lequel il y a lieu de méditer, qui va nous ouvrir au fond sur un sujet fondamental, c'est l'individu qui au fond a besoin de se sentir exister à travers l'expression du kavod, des honneurs qu'on va lui prodiguer, de cette personne qui, au fond, a besoin d'être installée dans les lieux qui symboliquement représentent une forme d'accession sociale pour sentir qu'il existe. Et c'est tombé peut-être à ce moment-là dans la problématique du kavod, dans la problématique de la recherche des honneurs, avec tout ce que ça peut avoir d'extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que on a un texte de la Mishnah qui nous dit que Akina ta'ava va'kavod, la jalousie, les désirs, mais surtout le kavod, pas surtout, et les honneurs, la recherche des honneurs, motzi et adam min haolam font littéralement disparaître l'individu de ce monde. Alors, ce n'est pas nécessairement, comme certains penseraient, une lecture que ce sont des fautes et que, comme on commet ces fautes, alors dans ce cas-là, il y a sanction, non. Dit un des plus grands maîtres du Moussar, le Rav Wolbe, la chose suivante, il dit, motzi et adam min haolam, ces choses-là, et on va s'arrêter surtout sur le kavod, c'est-à-dire sur cette recherche d'honneur, ce besoin d'exister à travers un cadre, à travers un lieu dans lequel on se trouve, eh bien, empêche l'individu de découvrir son propre univers. C'est-à-dire que l'individu n'est pas conscient de sa valeur en tant que tel, à travers ce qu'il est, sa construction intérieure, le travail qu'il effectue sur lui-même, le raffinement de sa personnalité. Pourquoi ? Parce qu'il cherchera à exister à travers des choses qui sont factices, des choses qui sont extérieures. Il y a un cordon rouge qui est là, qui sépare les uns des autres. Alors brusquement, on a l'impression qu'on est quelqu'un de mieux, quelqu'un de voilà, de certaines formes de supériorité. Vous savez, il nous est tous arrivé un jour de passer dans un aéroport et puis, pour des raisons X, Y ou Z, de passer par l'endroit dans lequel ceux qui ont des billets de la classe supérieure peuvent passer. Je m'y suis retrouvé un jour parce que tout simplement j'avais un petit souci et je ne pouvais pas trop rester debout. Alors j'avais eu le droit de passer plus rapidement pour ne pas rester trop longtemps debout. Et c'est intéressant parce que vous passez par ça. En vérité, c'est très bien parce que tout simplement, eh bien, voilà, vous avez un petit souci à la jambe et vous êtes obligé de vous asseoir relativement vite. Et au fond, on se sent un peu différent, on a l'impression que les autres nous regardent. Non, nous, on fait partie de ceux qui sont là et puis il y a les autres. Et c'est quelque chose qui nous guette très rapidement et qui empêche l'individu de s'interroger sur ce qu'il est. Parce que une des pires des choses qui puissent nous arriver dans la vie, c'est que les autres nous donnent l'illusion d'être ce que nous ne sommes pas réellement. Et à ce moment-là, on peut se fourvoyer par rapport à soi-même et oublier qu'on a un véritable travail intérieur à faire, une véritable démarche de construction non visible pour véritablement devenir quelqu'un qui a quand même un tout petit peu de valeur. Voilà un petit peu ce à quoi m'amène ce texte qui, lorsque j'ai lu la première fois, m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup bouleversé, parce que c'est en effet un travers dans lequel on peut tomber extrêmement rapidement. Évidemment, je ne dis d'aucune manière que ceux qui ont besoin d'être parfois dans ces carrés VIP, parce que tout simplement, c'est de leur fonction d'y être, sont des personnes qui recherchent le kavod. Évidemment que non, on n'a pas le droit de se permettre de juger les autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit s'interroger parfois soi-même sur notre désir d'exister à travers quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes, quelque chose qui est du domaine de la visibilité, mais qui n'est pas nécessairement l'expression de ce que nous sommes réellement. D'ailleurs, vous pouvez le voir, quand vous croisez un maître dans la plénitude de ce qu'il est, eh bien, c'est ce qu'il est au fond qui transforme l'univers dans lequel il se trouve. C'est sa présence, c'est son aura, c'est sa sagesse, c'est son humilité, ce sont ses qualités humaines qui font que, quel que soit l'endroit dans lequel il se trouve, il y a quelque chose de particulier qui se passe. À nous d'essayer d'avoir face à nous ces exemples, ces modèles, pour faire en telle sorte que nous rejoignions véritablement notre propre âme, notre propre univers, notre monde intérieur, et que nous n'ayons pas besoin d'exister à travers le regard des autres.
Il faut par exemple se souvenir de l'état de dénuement des appartements de Rafsteinman, par exemple, de Rav Eliashiv. Il n'y a strictement rien, mais rien. Une table.
Oui, c'est vrai que... C'est vrai. Mon père m'a raconté, Zichrono Livracha, que chez le Rav Raikin, à Aix-les-Bains, il se rappelait que quand il était arrivé à la Yeshiva dans les années 50, il avait, avec un autre élève, récupéré des caisses de bois pour faire la bibliothèque dans laquelle le Rav Raikin posait ses livres, et puis 20 ans, 30 ans après, la bibliothèque était toujours là. Mais il faut faire attention aussi de ne pas être des imitateurs, parce que ce n'étaient pas des postures. Lorsque l'on rapporte que le Hafetz Chaim, un jour, quelqu'un est venu lui rendre visite, et puis c'était un homme extrêmement riche qui voit le Hafetz Chaim dans une maison toute simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il est un peu étonné, cet homme riche, il dit au Hafetz Chaim, mais Rav, où sont vos meubles? Et le Rav, bien sûr, lui répond à la question par une question. Et il dit, et vous, monsieur, où sont les vôtres? Je dis, mais attendez, Rav, je n'ai pas mes meubles avec moi, je suis en voyage. Et à ce moment, le Rav Hafetz Chaim, c'est exactement la même chose pour moi. Je suis en voyage. Et donc, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir tellement de meubles, alors qu'au fond, on est juste à l'intérieur d'un voyage. Voilà un petit peu un état d'esprit qui laisse à réfléchir, évidemment.
Ravili Lemel, elle est belle, hein, l'anecdote. Merci à vous. Et Shavua Tov. À la semaine prochaine. Shavua Tov.
À la semaine prochaine, Bezrat Hashem.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shavua Tov.
Des bonnes choses, des bonnes nouvelles.
Amen. On continue notre réflexion avec vous, Rav Mordechai Biton. Et alors, vous avez remarqué une forme de paradoxe. Lorsque on demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Juifs d'Égypte, on, évidemment, comme un article indéfini, quand Dieu demande, quand Hachem demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Juifs, il dit non, pas moi. Il faut trouver quelqu'un d'autre, il y a toutes les raisons du monde, il sait, bon, on connaît. Et voilà, il ne voulait pas. Il aurait voulu même que ce soit son frère, si c'était possible, et pas lui. Mais lorsqu'on lui demande, dans notre paracha ici, de donner la Torah aux Juifs, à ses contraires. Là, il dit, oui, c'est moi qui le ferai, je veux le faire, et il est très empressé. Alors, c'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, Rav Mordechai Biton?
Oui, effectivement. Et lorsqu'il s'agit d'aller sauver les Bnei Israël, l'argument numéro un de Moshe Rabbeinu, c'est de dire Mi ani, shani alech el paro, qui suis-je pour aller chez Pharaon? Et de tout ce dialogue entre Hachem et Moshe Rabbeinu, premier enseignement qui surgit, c'est l'enseignement de la modestie de Moshe Rabbeinu. En quelque sorte, cette idée de dire pourquoi c'est pas Aaron qui est là-bas. Aaron, il est plus grand que moi. Aaron, il est resté là-bas en Égypte. Il a soutenu les Bnei Israël physiquement, ou qu'il a payé de sa personne. Moi, j'ai grandi chez Pharaon. Quand Pharaon a voulu me tuer, je me suis enfui. J'étais pas aux côtés des Bnei Israël dans leur malheur. Donc, si vous voulez, on voit à la fois la grandeur de Moshe Rabbeinu, mais précisément une grandeur qui vient de sa modestie. Et là, quand il s'agit de donner la Torah, là, Moshe Rabbeinu, il se met devant. Il dit « Hachem, ok ». Et non seulement ça, hein, et la Gemara dans Avodah Zarah va nous apprendre que Moshe Rabbeinu a même ajouté une date. Et, vous savez qu'il y a un vikouar, il y a une discussion avec Gemara pour savoir si la Torah a été donnée le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Et il va même rajouter un jour de préparation de son propre chef, il prend les choses en main. Alors pour bien le comprendre, pour bien comprendre ce qui nous apparaît comme un paradoxe, il faut comprendre qu'il y a ici une évolution. Cette évolution, elle est signifiée par un dialogue, qui est un dialogue très étonnant, entre Akadosh Baruch Hu, Dieu, et les montagnes sur lesquelles la Torah doit être donnée. D'accord ? Alors, chaque montagne s'est présentée, le Har Tavor s'est présenté, les montagnes se sont présentées chacune en disant, finalement en arguant que c'était des montagnes élevées. Et puis vient le Har Sinaï. Le Har Sinaï, lui, finalement ne demande rien. D'accord ? Finalement, le Har Sinaï, c'est la montagne qui va être choisie. Et finalement, ce que Akadosh Baruch Hu va dire est la chose suivante. Il va dire, cette montagne, il y a un défaut qu'elle n'a pas, c'est l'orgueil. Alors, qu'est-ce qu'on nous enseigne au sujet de cette allusion, ces montagnes qui discutent avec Akadosh Baruch Hu ? Quel est le sens ici ? Comme toujours dans les Midrashim, il y a ici un enseignement profond, mais qui est masqué sous la forme d'une parabole, des montagnes qui parlent avec Dieu. En fait, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que il y a un certain nombre de forces dans le monde qui sont des forces qui règnent. L'orgueil, la puissance, la satisfaction de soi. Et il y a des forces qui, en apparence, ne produisent pas de pouvoir dans le monde. La modestie, le retrait, si vous voulez, l'humilité. En apparence, ce sont des forces qui ne produisent rien dans le monde. Et Hachem, qui est la manifestation de la vérité, dit... La force qui produit le plus dans le monde, c'est l'humilité et la modestie. Ça veut dire qu'à chaque fois que finalement je suis en conflit, si je sais faire preuve d'humilité, si je sais faire preuve de modestie, alors il y a un certain nombre de midotes et de traits de caractère qui vont avec, ne pas s'entêter, ce genre de choses, et ne pas lever le ton, ne pas pratiquer des escalades verbales, etc. En fait, le Midrash vient et nous dit la chose suivante. La force qui produit le plus de bien dans le monde, et donc le plus de justice, et donc le plus d'intelligence, s'appelle la modestie et l'humilité. Parce qu'en fait, cette force-là, ça peut aussi être la force de David Améler, le roi David, qui est le roi tout-puissant d'Israël. Ça peut être la force de Moshe Rabbeinu, de Moïse, qui va prier Hachem pour sauver le peuple juif au moment du Egel Azav, mais c'est aussi celui qui prie Hachem pour dire « N'écoute pas Korach ». Korach, il veut faire une marloquette, il veut détruire le peuple juif, ne l'écoute pas. C'est Moshe Rabbeinu qui est capable de tuer un Égyptien. Donc c'est pas une expression, c'est pas une force, la force d'un homme qui est reclus sur lui-même, replié sur lui-même. David Améler, c'est l'ancêtre du Machiav, c'est le roi d'Israël, c'est le roi qui a mené des guerres. Et c'est l'emblème de la modestie dans la royauté. Moshe Rabbeinu, c'est l'emblème de la modestie dans la prophétie. Et pourtant, il va tuer l'Égyptien, il tient tête à Pharaon, et il a une et il guide le peuple juif. Donc ici, il y a un enseignement très profond. C'est de dire que un leader n'est pas un leader parce qu'il fait des guerres, parce qu'il lève la tête, parce qu'il écrase tout le monde. Un leader est un leader parce qu'il a en lui cette dimension qui est la dimension de l'effacement. Et ce n'est pas paradoxal, c'est fondamental. Parce qu'un vrai leader, un vrai chef, c'est quelqu'un qui est capable de donner de la place aux autres. Et donc Moshe Rabbeinu, il va en quelque sorte comprendre. Quand il est face à Pharaon, oui, effectivement, quand il s'agit de délivrer les Juifs, il dit à Hachem, il dit, mais moi, je sais très bien que c'est le monde, il n'est pas l'idée, il n'est pas conduit par Pharaon et par tous les puissants de ce monde. Il est conduit par toi, et toi, tu as un roi effacé. Donc tu me demandes à moi d'aller, demande à Aaron. Aaron aussi, il est modeste. Aaron aussi, il a cette force en lui. Pourquoi c'est pas Aaron qui dit, non, Hachem, il dit, c'est toi que j'ai choisi. Bon, alors à la fin, il y va. Mais quand il s'agit de donner la Torah, là, c'est tout à fait une autre affaire. Parce que la Torah, finalement, elle tient chez qui ? Chez les gens qui ont cette humilité en eux. C'est quoi un Ben Torah ? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah ? Qu'est-ce que c'est un juif qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot ? C'est quelqu'un qui a la dimension à la fois de l'ordre qu'il faut donner, de diriger sa vie et de diriger les choses. Oui, bien sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui a en lui la dimension de l'effacement. Et la Torah, elle est comparée à l'eau. Elle ne tient que chez une personne qui cultive cette dimension de l'effacement. Je ne veux pas dire chez quelqu'un qui ne cultive que ça ou qui cultive d'abord ça. Non, parce que la Gemara nous dit bien qu'un Talmid Chacham, il doit avoir un 60e d'orgueil pour la Torah. pour défendre son point de vue, pour défendre la vérité. Un Talmid Racham, s'il pense qu'une chose est vraie, il peut le dire. Mais il doit avoir en lui cette dimension-là, qui est une dimension cultivée, qui est la dimension de l'effacement. Et c'est fondamental. Et alors, qu'est-ce qui va se passer de tout ça? La Mishnah dans Pirkei Avot va nous dire « Moshe Kibel Torah mi Sinai ». Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Non, il a reçu la Torah au Mont Sinaï. Pourquoi du Sinaï? Parce que c'est de ce Midrash qui nous dit que la dimension de l'effacement, c'est une dimension qui doit être présente chez les gens qui sont précisément des rois et des princes. C'est cette dimension-là, si elle est présente, elle est cultivée, c'est cette dimension qui fait que ces gens-là, ils peuvent recevoir la Torah et la transmettre. Donc il a reçu la Torah du Sinaï, pas au Mont Sinaï. Parce que du Sinaï, du Mont Sinaï qui incarne cette dimension de l'effacement, alors peut surgir la dimension qui est la dimension de la royauté, la dimension du gouvernement, la dimension de la justice, la dimension du pouvoir. Voilà. La dimension du pouvoir, elle ne vient pas du fait que j'écrase tout le monde. La dimension du pouvoir, elle provient du fait que je sais laisser de la place aux autres. C'est la différence entre le pouvoir et l'autorité. Et c'est tout à fait fondamental, et c'est cet enseignement-là qui nous est dit ici, au travers de ce Midrash. Je nous souhaite à toutes et à tous d'être capables de recevoir la Torah, d'être capable de cultiver cette dimension-là, de l'effacement, de l'humilité, de la modestie. Et effectivement, cela ne veut pas dire qu'on a demandé aux gens de rester reclus dans leur coin comme des cornichons flétris, mais au contraire, on leur demande de rayonner, etc. Mais de savoir que c'est à partir d'une position d'être capable de s'effacer, d'être capable de laisser de la place aux autres, de dialoguer, d'échanger. C'est une dimension fondamentale dans la famille, dans le couple et dans la communauté, et d'une manière générale, dans le peuple juif entier. À toutes et à tous, Shavuatov.
Shavuatov, et qu'on soit de vrais dirigeants, tels que vous l'avez dit, avec nos enfants, avec nos femmes, pour les hommes, et avec nos maris, pour les femmes. J'ai entendu un très bel enseignement, je ne sais pas si je voulais déjà partager avec vous, de Rav Shmulevitch, qui est un des plus grands Mashgichim, et qui disait, il est écrit dans la Torah, toute personne qui peut, tout celui qui peut, on dit quand on traduit mal, toute personne qui peut, tout celui qui peut faire un reproche à quelqu'un qui fait quelque chose de mal par rapport à la Torah, doit le faire. Et vous connaissez cet enseignement?
Oui, bien sûr.
Oui. Et on lui dit, et il pose la question, il dit, pourquoi il y a marqué tout celui qui peut? Il n'y a pas marqué toute personne qui peut faire Shabbat doit faire Shabbat, il y a marqué fait Shabbat. Alors il a répondu, j'espère que je traduis bien ses paroles, je parle sous votre contrôle. Il a répondu, on dit toute personne qui peut faire un reproche a le devoir de faire un reproche, ça veut dire qu'il y en a qui ne peuvent pas. C'est pour ça qu'on dit ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart d'entre nous, on ne peut pas. On n'en est pas, on peut pas le faire. Alors comment on le fait? Parce qu'il faut bien que les choses s'améliorent. Il a dit, par l'exemple. En donnant un exemple, en étant un exemple, c'est le seul moyen qu'on peut faire pour faire évoluer les choses. Le reproche ne sert pas. Est-ce que j'ai traduit correctement?
Absolument.
C'est ça?
C'était cette idée de travailler son caractère et d'affiner ses midos. Que dira Israël Salanter à la fin de sa vie? J'ai voulu changer le monde entier, mais à la fin de ma vie, j'ai compris que je devais changer moi. Mais toute sa vie, il s'était changé lui-même. Il avait travaillé à changer, lui. Et c'est pour ça qu'il est devenu le Baal Moussar. Mais vous voyez, c'est une idée qui est fondamentale parce que ça rejoint aussi un petit peu notre actualité. Il y a beaucoup de gens qui aident les autres et qui, en fait, à un moment donné, ne comprennent pas qu'eux aussi ont besoin d'être aidés. Vous voyez, et ça les conduit à leur perte. Parce que beaucoup de gens qui aident les autres à un moment donné peuvent être en difficulté. Et ils doivent accepter cette idée d'être aidés. Ils doivent accepter cette idée qu'ils ont besoin de l'autre. Ça fait partie de cette dimension de l'effacement. David Ameler, le roi David, d'accord, il avait des conseillers, il avait des gens qui lui faisaient des tochachot, il avait un avis, un prophète qui était devant lui, qui lui faisait des tochachot et qui lui disait « là tu fais n'importe quoi ». Et c'est ce qui a fondé la démarche de sa teshuva. C'est parce qu'il a compris que tout roi qu'il était, il avait besoin d'être aidé dans sa détresse ou dans sa faiblesse. Et ça c'est une chose qui à mon avis est fondamentale et qui, quand elle n'est pas comprise, elle peut conduire un individu à sa perte. C'est pas parce qu'il est roi qu'il n'a pas besoin d'être sujet. C'est fondamental.
Rav Mordechai Biton, je vous souhaite Shavuatov. Et à la Shavuatov. Semaine prochaine. Shavuatov.
Shavuatov. Shavuatov.
en ligne avec Maya Chadré. Bonsoir Maya Chadré, Shavuatov.
Shavuatov.
Alors, on continue notre réflexion sur notre paracha. Et alors vous, vous avez fait un choix tout à fait particulier. Vous dites, je veux parler de la dernière phrase de la paracha. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le commandement pour ceux qui a priori les Kohanim, pour ceux qui font le service dans le temple, de ne pas monter sur les escaliers. C'est très intéressant. Il faut que ce soit une rampe. Et alors, vous nous dites, quoi, c'est dans la paracha des 10 commandements, on termine sur un détail pareil. C'est ça qui... C'est comme ça qu'on termine l'événement le plus... Le tremblement de terre le plus important de l'histoire du peuple juif et peut-être de l'humanité. On veut savoir comment tu vas au Misbéar et surtout ne prends pas d'escalier. Et vous dites, mais on va vous entendre. Oui, c'est lié. C'est la suite même. Et peut-être même l'explication. Alors on vous écoute.
Oui, alors en effet, je pense d'abord qu'il y a vraiment un intérêt toujours quand on se pose sur le texte, sur une section de la Torah, la paracha, il y a vraiment un intérêt à voir ce qui configure cette paracha au début et à la fin, c'est-à-dire l'entrée de la paracha, l'ouverture de la paracha et sa fermeture, qui sont en fait extrêmement révélateurs du contenu. Alors, l'entrée de la paracha, souvent on en parle, puisque c'est le nom de la paracha, en l'occurrence le nom de Yitro, puisque Yitro va venir intégrer l'histoire du peuple d'Israël, Yitro, le fameux prêtre qui est beau-père de Moïse, et ça a vraiment du sens du point de vue à tout niveau, puisque Yitro, c'est la paracha des 10 paroles de Dieu, donc de l'élection d'Israël, mais elle porte un nom qui inclut quiconque veut venir et veut s'agréger à cette histoire. Donc même si le judaïsme n'est pas une religion prosélyte, toutefois si une personne est digne de la confiance et peut se voir comme étant porteur de ce message divin, eh bien qu'il vienne et qu'il accompagne Israël. Donc si vous voulez, l'introduction de la paracha, qu'elle s'appelle Yitro, ça...
Yitro, c'est aussi c'est la paracha d'un converti.
Alors c'est ça qui est intéressant dans le titre de la paracha, la paracha de Yitro, parce que bien sûr c'est essentiellement la révélation sinaïque, mais c'est aussi l'histoire d'un homme, ce fameux Cohen, ce prêtre des nations qui vient et qui va s'agréger et faire partie de l'histoire d'Israël. Et donc même si la religion juive n'est pas prosélyte, toute personne peut venir et être également porteur de ce message pour les nations, ce message pour nous, mais c'est un message qui va apporter, comme vous l'avez dit, un tremblement de terre dans l'humanité, qui va mettre de l'ordre dans l'histoire du monde. Alors on a bien compris l'introduction de la paracha d'Yitro. Qu'en est-il de la fermeture de cette paracha? Alors, on a l'impression qu'après, juste après les 10 commandements, on a l'impression qu'on a un commandement qui n'a pas forcément beaucoup de poids ou d'importance, on dirait presque un détail. Et pourtant, c'est le verset qui ferme la paracha d'Yitro. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes devant une mitzvah, la mitzvah de faire un misbéar, un autel pour y apporter des sacrifices ou des offrandes à Dieu, pour servir Dieu. Et cet autel est donc, comme son nom l'indique, haut, d'accord? Il s'agit de gravir, il s'agit de trouver de la hauteur dans notre lien avec le spirituel. Et cet autel, dit le texte, eh bien, il y a une interdiction, évidemment, de le faire dans un autre matériau que la pierre, c'est évident, puisque il faut un matériel qui n'est pas utilisé pour combattre ou autre. Donc, très bien au niveau du matériel, mais il y a une autre précision. L'autre précision, c'est Velota alebe ma'alot, tu as l'interdiction de monter, puisqu'il est en hauteur, avec des escaliers. Et donc, fabriquer une rampe. Alors, tout le monde a en tête l'image du Misbéar dans le temple, qui avait en effet une longue rampe pour monter, alors qu'on aurait pu monter avec des petites marches, avec des escaliers, pour apporter cette offrande. Non, 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 c'est absolument interdit. Il faut absolument qu'il y ait une rampe. Et le pasouk de continuer de dire pourquoi cela? Eh bien, afin que ta nudité ne s'y découvre point. Alors, ce qu'on imagine au sens premier du texte, c'est que lorsque la personne monte sur l'escalier, il va enjamber rapidement les escaliers, et puis même s'il porte, comme on le sait, le Cohen avait une longue robe, une longue tunique, eh bien, le fait de faire des grands pas, il y a une forme de manque de pudeur. Alors, quel manque de pudeur ? Ce n'est que la pierre hein, qui voit sous la robe. Mais en réalité, même ça, ce n'est pas tout à fait exact, parce que le Cohen portait un pantalon sous sa robe. Donc, on comprend bien ici qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'une interprétation du verset. Il ne faut pas monter avec des escaliers, parce que sinon tu dévoilerais quelque chose qui ne doit pas être vu. De quoi s'agit-il ? Alors, vous savez, cette paracha des 10 paroles, elle a lieu au moment de la révélation sinaïque en haut d'une montagne. Alors, pas si grande, elle n'a pas besoin d'être très haute, mais il est nécessaire que nous ayons cette idée-là de hauteur, cette idée-là que finalement, on peut aller au-delà de ce que nous sommes. Et le Misbéar, c'est à une toute petite échelle également une volonté d'ascension, une volonté de grandir. Et quand nous arrivons chaque année à la paracha des 10 commandements, eh bien, ceux qui parmi nous sont dans une perspective de grandir, d'avancer, de changer, de se transformer, de teshuva même, eh bien, le fait de grandir, le fait de prendre de la hauteur, ça leur parle immédiatement. Ils veulent gravir les marches de cet escalier. Et des fois, on veut même les gravir 4 par 4. Et puis, on est tellement souvent porté par un désir ardent, hein, une sensation de hauteur, de force, de puissance, de dépassement, qu'on va vouloir gravir vite, vite, vite. Et attention, attention. Attention à faire de trop grands pas. La teshuva est merveilleuse, avancer dans la Torah c'est extraordinaire, mais faisons-le avec une rampe. Faisons-le pas à pas, doucement, doucement. Pourquoi ? Alors il ne s'agit pas de doucement au niveau, je dirais, temporel, parce que chacun a son rythme. Mais en fait, dans la méthode, souvent, la plupart des personnes, quand elles décident d'avancer, de décider par exemple de faire Shabbat qui est un fondamental ou de manger kasher, autre fondamental, le mikvé, un troisième des fondamentaux, eh bien la première des choses automatiquement et par nature que l'humain va mettre en place, c'est les barrières, c'est les interdits, c'est à partir de maintenant je ne fais plus ceci et je ne fais plus cela. Alors je ne vais plus faire mes courses le samedi, je ne vais plus prendre la voiture, je ne vais plus prendre le portable. Je ne vais plus manger dans tel restaurant. Et donc, le visible, en tout cas extérieurement, ça va être ce « je ne vais plus », cette nouvelle barrière. Et ça, en fait, avancer de cette façon-là, eh bien, le risque, c'est de ne pas mettre à la même vitesse que l'on s'ajoute des barrières qui doivent être là, bien sûr, mais à la même vitesse, il faut aussi mettre du contenu. Parce que ce n'est pas tout que d'avoir une barrière, il faut aussi savoir cette barrière, elle est là pour protéger quoi ? Pour protéger un contenu. De quoi est fait le contenu du Shabbat ? De quoi est fait le contenu de la vie de couple ? C'est magnifique de préserver, de protéger les lois de la Nida et aller au mikvé. Mais quelle est l'intériorité du couple ? Quelle est l'intériorité de la relation ? Quelle est l'intériorité du Shabbat ? Et ça, c'est moins visible souvent. On voit davantage les barrières que le contenu que nous y mettons. Or, il me semble, c'est une lecture tout à fait personnelle que je vous livre, que cette idée-là, afin que ta nudité ne se dévoile pas, eh bien, la nudité, finalement, c'est finalement voir quelque chose, voir du contenu qui, finalement, nous laisserait montrer un contenu vide, un contenu creux. Il n'y a que ce que l'on voit, il n'y a rien de plus. C'est la raison pour laquelle nous nous couvrons, pour montrer qu'il n'y a pas que le visible, il y a du contenu. Eh bien, on risquerait de voir une nudité, c'est-à-dire qu'on risquerait de voir qu'il n'y a pas de contenu, qu'il y a quelqu'un qui gravit très rapidement les marches, 4 à 4, qui a un sentiment de hauteur. Hein, et ça, c'est à faire très attention de ne pas tomber dans l'orgueil, de ne pas croire qu'on est supérieur quand on a avancé dans la Torah, parce que avancer, c'est l'histoire d'une vie, c'est jusqu'à 120 ans. Et donc, bien sûr, se mettre des barrières, parce que c'est ça, finalement, grandir, c'est ça, progresser. Mais attention à ne pas en être impudique d'une certaine façon. Et ce serait impudique que de se sentir supérieur, ce serait impudique que de penser que notre Torah, notre pratique, se résume à des barrières et qu'elle n'est pas surtout un contenu. Et ce contenu doit être protégé par des mises en garde et par des barrières. Et donc, je crois en fait que ce dernier verset de la paracha, il est sensationnel. Il est philosophiquement très porteur de sens. En fait, on a ici un petit manuel à la disposition de tous. Comment grandir? Comment avoir de la hauteur? Pour avoir cette hauteur, eh bien, marchons, avançons, mais d'abord sur une rampe.
C'est très beau ce que vous venez de nous dire. Et d'ailleurs, moi qui n'ai pas fait les études de Torah que vous avez fait vous, souvent je dis à ceux qui veulent faire quelque chose, allumez les bougies le vendredi soir. Commencez pas forcément par un interdit. Allumez les bougies, mettez de la lumière là, il y a de l'obscurité.
Et
vraiment, hein, vous êtes d'accord avec moi ?
Ah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et même, j'ajoute même à toutes mes élèves qui clairement me disent je ne peux pas encore ou je n'arrive pas, je ne sais pas encore être Shomer Shabbat. Du mieux, il y a une chose que tu sais faire, c'est allumer tes bougies de Shabbat. Et puis tu sais quoi ? Allez, pendant une heure après l'allumage des bougies, tu ne touches pas au téléphone et aux appareils. Une heure, c'est déjà un bout de Shabbat dans la vie d'une personne.
Mm-hmm. Et en plus, oui, effectivement, techniquement, si on peut dire, halakhiquement, allumer les bougies, c'est une mitzvah, faire Shabbat, c'en est une autre. C'est comme mettre les téfilines et faire la prière. C'est pas parce qu'on fait l'un et parce qu'on fait pas l'un qu'on doit aussi s'interdire de faire l'autre. Maria Chadré, ouais. Je vous remercie. Je vous souhaite Shavua Tov.
Shavua Tov, très belle.
À la semaine prochaine.
À bientôt. Au revoir.
Pour clore notre émission, je voudrais vous rappeler ce merveilleux concert. C'est un concert qui rentre tout à fait dans l'idée de nos débats du samedi soir de Melavé Malka, puisque c'est Ben Snuff qui est en concert en Paris, en partenariat avec Radio Shalom. Ben Snuff est l'un des chanteurs les plus talentueux de la scène israélienne et il est religieux. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un spectacle. Je crois que beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir connaissent ces chansons. On va d'ailleurs entendre quelques notes de musique pour se quitter. Et vous pouvez participer à ce moment exceptionnel à Paris. Ce sera le 3 février prochain, en réservant vos places sur tous les endroits connus pour réserver ces places pour des concerts ou sur le site du Palais des Congrès directement. Comme ça, en plus, vous pouvez choisir votre place. Ou sur le site de l'association Migdal. Comme ça, vous pourrez faire un don. Nous participerons tous ensemble à ce moment merveilleux de ce concert de Ben Snuff au Palais des Congrès le 3 février prochain. On se quitte avec l'artiste. Excellente soirée à tous et Shavua Tov.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmari yi, shalom shokat shoy meh.